Alors, continuons. Y a-t-il des questions d'abord par rapport à ce qu'on a dit précédemment? Ce passage, voilà ce que je voudrais que vous compreniez au point de vue logique. Le passage de l'universel à l'attribution. Et voir qu'à partir de l'attribution, il y a un nouvel être de raison qui apparaît. Et donc, au point de vue logique, il va y avoir de nouveaux problèmes. Ah oui, je ne veux pas trop insister là-dessus parce que le cours est sur la logique. Ce que je voulais opposer, distinguer conscience psychologique et conscience morale, je crois que ça on peut arriver assez facilement à le comprendre. Et alors, la conscience psychologique, c'est tout simplement la conscience de mes diverses opérations au niveau vital et le conditionnement de ces diverses opérations, comment elles s'impliquent l'une l'autre. Avec la conscience morale, alors, je continue. Je voulais vous dire, parce que ça me semble intéressant et important, que la logique de l'attribution va me faire apparaître quelque chose de nouveau. Je ne suis plus simplement dans l'addition ou la soustraction de l'universel, il y a quelque chose de plus. Ceci est très visible quand je prends le point de vue de la critique du jugement. Quand je dis « ceci est », la signification de ce jugement d'existence implique l'identité de cette réalité, ceci que je désigne du doigt, et son acte d'être. Il y a une identité au niveau réel. Bon, quand je dis, alors d'un point de vue tout à fait différent, dans un jugement, l'homme est un animal, je dis, il y a identité au niveau signification profonde entre l'homme et animal. C'est-à-dire que l'homme implique l'implication animale. Et donc, il y a identification entre les deux. La fonction d'animal et la fonction d'homme ne sont pas identiques. Mais au niveau de la signification, vous voyez comme c'est important, bien distinguer l'aspect de la fonction et l'aspect de la signification. Et que dans la logique moderne, c'est-à-dire la logique mathématique, eh bien vous verrez qu'il y a toute la fonction. Là, on voit très bien comment cette logique s'est séparée de l'aspect philosophique. Parce que l'aspect signification, c'est justement comment la logique va être liée à l'aspect critique et à l'aspect philosophique. Et comment ça peut me voir le point de vue de ce qu'on a vu dans l'universel, bien distinguer dans l'universel l'aspect fonctionnel et l'aspect signification. Il faut arriver à jongler avec ça. L'important, bien distinguer l'aspect fonction de l'être logique. Évidemment, l'être logique est premièrement un être fonctionnel. L'être logique, premièrement. Et cet être logique a un fondement qui est la signification. Oui. Donc la signification n'est pas premièrement donnée. C'est pour ça que dans la logique dite formelle, je vais couper la fonction de la signification. Et je ne regarderai plus que l'aspect fonction. Mais au fond, cette coupure qu'on fait est une coupure qui va naître d'un certain type d'abstraction. Et c'est là où on se demande si ce n'est pas le type d'abstraction mathématique qui permet ça. Et ça serait très intéressant à étudier. Vous voyez ? D'étudier pourquoi il y a dans la logique moderne, et vous le verrez avec M. Balmès, quand il vous fera quelques petits cours sur la logique mathématique, parce que je crois que c'est important pour vous d'avoir un tout petit peu un aperçu sur la logique classique, dite classique, c'est-à-dire une logique qui est la première, enfin fondamentale. Il faut tout le temps y revenir de celle-là. Et puis ensuite voir ce qu'on appelle la logique mathématique. C'est intéressant de faire le parallèle entre les deux et de faire comme une espèce de critique, de voir quelle différence y a-t-il entre la logique que j'essaie de vous exposer, la logique de l'être de raison, et le point de vue de la logique purement fonctionnel, la logique positiviste, ou la logique positive, si vous aimez mieux, et qui est le point de vue d'une logique dite mathématique. Bon, alors, je continue. Une fois que j'ai compris comment le jugement implique cette identification, l'intelligence qui saisit ce point de vue du réel en laquelle s'identifie telle ou telle attribution, je reviens à la réflexion logique. Et je dis, dans la réflexion logique, il y a ceci de très particulier, c'est que ce n'est pas simplement une addition des diverses modalités universelles, mais il y a une certaine identification. Identification en fonction de la signification. Au niveau purement logique, je dirais addition, composition. Composition de deux aspects fonctionnels. Et je verrai si ces fonctions peuvent s'harmoniser ou pas s'harmoniser. Ou si ces fonctions s'excluent. La fonction homme et la fonction chien, c'est pas la fonction du terme homme et la fonction du terme chien, est-ce qu'elles vont s'exclure ou pas s'exclure? Ou est-ce qu'elles vont être parallèles? Donc ça, c'est tout le problème, c'est très intéressant de voir ça. Mais c'est, je ne regarde pas ça ici. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que, de fait, dans l'attribution, il y a un phénomène nouveau. Ce n'est plus, au sens rigoureux, l'universel qui reçoit un autre universel, mais c'est l'universel, le terme universel homme, qui va apparaître comme sujet. Il va apparaître comme sujet et qui va permettre alors une identité. En tant qu'il apparaît comme sujet. Parce que s'il était uniquement universel, alors il y aurait addition, et il n'y aurait pas d'identification. Tandis que si je comprends que dans la logique de l'attribution, le point de vue de l'universel homme, que je mets comme sujet, va donc être quelque chose de nouveau au point de vue logique, je vais voir apparaître dans l'attribution, au niveau logique, quelque chose de tout à fait nouveau, une nouvelle fonction qui ne sera plus l'attribution mais qui sera le sujet. Et je dirais, pour que l'attribution puisse s'exercer, il faut une nouvelle fonction, celle du sujet. Et c'est très vrai. Normalement, l'attribution est relative à une autre fonction qui est conduite. À ce moment-là, quand je dis l'homme est un animal, animal est attribué à homme, non pas en tant qu'universel, mais en tant que sujet. Et vient déterminer ce sujet. Et donc, apparaît là quelque chose de nouveau, l'attribution en exercice, je dis bien en exercice, parce que quand j'ai regardé le point de vue de l'universel, j'ai vu qu'il était capable d'être attribué. Et donc, je n'ai pas regardé l'attribution de l'exercice. L'universel, c'est ce qui est capable d'être attribué. Le latin dit aptum, natum, ce qui est capable. Ce qui est capable d'être attribué. J'ai, en quelque sorte, regardé l'universel en lui-même, je l'ai regardé pour lui-même, je l'ai regardé dans ce qu'il a de tout à fait caractéristique, et je vois qu'il est capable d'être attribué. Ici, je regarde l'attribution en exercice. Et je vois que cette attribution en exercice, pour pouvoir se réaliser, implique un sujet. Et donc, je suis en face de quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui me semble très important à saisir. Je suis en face de quelque chose de nouveau au niveau critique et au niveau logique. Au niveau critique, ce quelque chose de nouveau, c'est justement que l'intelligence, au niveau du jugement, saisit autre chose au niveau appréhension. Ça me semble très important à voir ça. Je me demande constamment si les équivoques qui peuvent exister dans le colloque de critique pour ceux qui le suivent, n'est-ce pas, ne proviennent pas de ce point de vue. Ça, je dis un tout petit mot que vous voyez ici, même pour ceux qui ne suivent pas le code de critique, ça n'a pas en soi, c'est quand même très important de voir, est-ce que dans le point de vue du jugement, point de vue critique, il y a un acte nouveau de l'intelligence. Autrement dit, le jugement ne peut pas être seulement une addition d'appréhension. Ne peut pas être seulement une soustraction d'appréhension. Mais le jugement implique un nouvel acte de l'intelligence qui saisit autre chose du réel que l'appréhension. Alors, que saisit le jugement autre que l'appréhension? L'appréhension, nous l'avons vu, saisit les catégories, saisit les déterminations quiditatives. C'est ça que saisit l'appréhension. Toujours la fameuse phrase que saint Thomas dira toujours, l'appréhension saisit la quidité des choses sensibles. Donc l'appréhension saisit l'aspect quiditatif, et la quidité des différentes catégories. Tandis que le jugement, lui, saisit autre chose. Qu'est-ce qu'il saisit? Il saisit un sujet existant, ou un sujet capable d'exister. Donc, le dépassement du jugement relativement à l'appréhension, c'est de saisir le sujet et le point de vue de l'acte d'être. L'acte d'être, c'est-à-dire l'existence. Pas l'acte d'être au niveau métaphysique, mais l'acte d'être dans son exercice d'existence. Tandis que l'appréhension saisissait, elle, la fluidité. La fluidité, c'est-à-dire le contenu des catégories. Voilà les deux dépassements. Réfléchissons un peu. Pour que vous voyez ça. Toujours, comprenons bien, toujours la visée de l'intelligence. La visée de l'intelligence par rapport à la réalité. Puisque l'intelligence ne saisit pas intuitivement la réalité, si l'intelligence saisissait intuitivement la réalité, elle serait comme le bois, elle avalerait la réalité. Et elle avalerait la réalité vivante. Noble pour ne prendre comme un élément que le vivant. Ce qui n'est pas vivant ne l'intéresse plus. N'est-ce pas? C'est qu'elle est. C'est nous qui mangeons les canards. Mais eux, ils sont cuits, heureusement. Tandis qu'eux veulent le vivant. Là, ils absorbent la réalité vivante d'un seul coup. Donc l'intelligence pourrait absorber la réalité intuitivement. Et à ce moment-là, il y a fait d'être le miroir de la réalité, comme ça. Et l'intelligence serait comme un reflet de la réalité, d'être là. Elle absorberait telle qu'elle est. À ce moment-là, il n'y aurait pas un petit acte d'intelligence, il y a tout simplement se mettre en bonne situation pour mieux refléter la réalité. Parce que je pourrais la refléter différemment. Je pourrais la refléter en haut, en bas, sur le côté, et ainsi de suite. Ce serait divers reflets de la même réalité. Mais au fond, ce serait toujours le reflet de la réalité. Tandis que du fait que mon intelligence est une intelligence qui implique une abstraction, je saisis de la réalité la fluidité, la vie de force, par l'appréhension. L'appréhension saisit de la réalité la fluidité. Le jugement saisit de la réalité ces deux aspects. La réalité est sujet, la réalité existe. Et il y a donc trois choses dans la réalité. Il y a trois choses dans la réalité. Il y a sa quidité, sa détermination. Il y a la réalité qui existe comme un sujet. Comme un sujet, c'est-à-dire comme un individu. Seul l'individu est sujet. Et la réalité a une existence. Vous voyez donc que l'intelligence, pour absorber le réel, c'est-à-dire moi-même, les autres, absorber l'autre, ce qui n'est pas dans le point de vue de l'intelligence. L'intelligence, pour absorber l'autre, se confronter avec l'autre, pour adhérer à l'autre et le connaître, adhérer ou pas adhérer, être vraiment en communion avec l'autre. L'intelligence a donc vis-à-vis du réel comme trois contacts différents. Non, il y en a encore d'autres après. Hein. J'en signale au moins trois ici. Vous voyez, nous résumons tout ce que nous avons vu jusque maintenant. C'est important. C'est à ce moment-là qu'on saisit mieux ce qu'on a vu. Parce qu'on commence à comprendre pourquoi il y avait l'appréhension, saisir l'aspect qualitatif. Ce par quoi je peux définir. Définir la réalité. L'individu est ineffable. Il est ineffable. Donc, il résiste à la définition. Vous avez quelque chose d'unique, c'est que vous résistez à la définition. On ne peut pas vous définir. Chacun d'entre nous. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on a compris qu'on était ineffable, ça supprime toutes les angoisses. N'hésitez pas, on ne peut pas. Ce qui est angoissant, c'est c'est très angoissant de nous mettre dans une série, dans une définition. C'est très très angoissant. Quand on dit là, c'est ineffable. Vous êtes ineffable. Donc on ne vous définit pas. C'est très important de comprendre que le sujet est ineffable. Le sujet est ineffable pourquoi? Parce qu'il existe. Il n'est pas ineffable parce qu'il a une cuidité. Au contraire, par la cuidité, on peut le définir. Tandis que parce qu'il existe, il est ineffable. Et qu'il existe dans sa singularité. Il existe aussi dans sa cuidité, mais il existe dans sa singularité. Et existant dans sa singularité, il est ineffable. Il échappe à la définition. Alors pourquoi définir? Ah, je définis parce que justement, dans les réalités existantes, il y a quelque chose que je peux saisir. Et ce quelque chose que je peux saisir, c'est justement l'aspect qualitatif. Donc l'aspect qualitatif, il est dans la réalité. Comme l'individu, c'est la réalité singulière, et comme l'existence. Alors, vous commencez peut-être mieux à saisir comment, dans le jugement d'existence, comme dans tout jugement qui porte sur la réalité, vous avez bien une appréhension. Toujours, le jugement présuppose l'appréhension. Mais le jugement dépasse l'appréhension, puisque l'appréhension n'est qu'un moment, un élément du jugement. Et surtout pas jugement, un élément. Et donc dans l'appréhension, l'appréhension est dépassée par le jugement, et le jugement, lui, le jugement, saisit la réalité dans son individualité, dans son existence propre. Je saisis donc, j'ai référence au réel. Et le dépassement qui se fait dans le jugement d'existence, ou dans tout jugement qui porte sur la réalité, c'est le dépasser l'aspect catégorial. Pour saisir l'individu qui existe, le sujet, l'individu ineffable, et le point de vue de son existence. Alors, que représente exactement ce dépassement? Ce dépassement représente donc dépasser l'aspect catégorie pour revenir à l'être dans son existence. Mais pas l'être au niveau métaphysique, l'être singulier. L'être existant, l'être concret. Si donc l'appréhension implique abstraction, le jugement, lui, va essayer de dépasser l'abstraction pour revenir au concret. Bien, alors là, nous voyons bien que l'intelligence, par elle-même, n'aime pas l'abstraction. Très clair. Puisque l'intelligence est parfaitement elle-même que dans le jugement. Elle est parfaitement elle-même que dans le jugement. Dans l'appréhension, elle n'est pas le jugement parfait. Elle appréhende. Et donc, le point de vue de l'intelligence comme intelligence hein, n'aime pas l'abstraction. C'est l'élément, j'allais dire, l'élément de pauvreté de mon intelligence, c'est parce que mon intelligence ne peut pas saisir intuitivement et directement qu'elle est obligée de passer par l'abstraction. Alors elle passe par l'abstraction qui est l'appréhension, mais elle essaie de le dépasser. Ça, c'est très important. C'est là où on voit comment la métaphysique ou la philosophie première qui regarde le point de vue du jugement de l'existence me fait bien comprendre que l'intelligence est faite pour saisir ce qui est, en tant qu'il est, et non pas du tout l'abstraction, et non pas du tout l'universel. Je passe par l'universel comme un moment, mais je ne demeure pas dans l'universel, heureusement. Je reviens toujours à ce qui est. Alors, comprenez maintenant, une fois que vous avez saisi ce petit chêne, c'est l'important de saisir ce petit chêne pour y réfléchir, du reste, hein, et puis comprendre un peu ce que représente le point de vue du jugement. Donc c'est là la très grande importance du jugement, et de comprendre que le jugement, c'est vraiment l'acte propre de l'intelligence. L'intelligence n'est pas faite, donc elle est parfaitement elle-même que dans le jugement. Pas dans l'appréhension. Dans l'appréhension, elle est à un moment élémentaire. Elle n'est pas adulte, comme on dit aujourd'hui. Elle n'est adulte que dans le jugement. Tandis qu'elle est dans une phase infantile. C'est pour ça que si je reste dans les catégories, je cérébrale. La cérébralisation, le phénomène de la cérébralisation, c'est de couper l'appréhension du jugement. Et ce n'est que dans le jugement d'existence que mon intelligence redevient adulte et n'a pas peur du réel, et n'a pas peur du singulier, en sachant très bien que le singulier a quelque chose d'ineffable. Et parce qu'il a quelque chose d'ineffable, il a quelque chose d'effrayant. Oui, parce que la définition, elle est claire. Et parce qu'elle est claire, elle est limpide. Et parce qu'elle est limpide, elle n'est pas effrayante. Tandis qu'au contraire, le sujet existant dans ce qu'il a dit d'ineffable est toujours un peu effrayant. On est tellement à l'aise dans les séries, on est tellement à l'aise dans les classifications, on est tellement à l'aise dans les définitions, parce que ça en possède, ça, c'est tout à fait intelligible. Tandis qu'au contraire, l'individu échappe. Mais comme c'est important de saisir ça, là je fais un peu de psychologie au niveau, si vous voulez, de la critique, mais c'est quand même très important de saisir ça, de saisir que de fait, l'immense avantage de l'appréhension, c'est que l'appréhension est au niveau de l'universel. Et au niveau de l'universel, je suis dans un domaine qui est mien. C'est moi qui l'ai produit. Tandis que l'individu singulier, ça ne provient pas de moi. Mais c'est l'autre. C'est toujours terrible, l'autre. Je ne dis pas que c'est l'enfer, mais je commence à comprendre pourquoi on veut dire que l'autre, c'est l'enfer. Parce que c'est quelque chose que, de fait, il n'est pas clair. Vous voyez, c'est là où on voit comment ça dépend des cartes, le petit-fils de Descartes. Et c'est vrai, il est petit-fils de Descartes. Il faut être cartésien pour dire ça. C'est-à-dire que l'autre, c'est l'enfer. Il faut vraiment, plus Descartes que Descartes, plus royaliste que le roi. On dit plus Descartes que Descartes. Alors on est ça. Descartes n'aurait pas osé dire ça. C'est chrétien. Alors quand même, tu m'aimeras, c'est l'enfer. C'est certainement pas du tout. Mais Sartre, n'étant plus chrétien, peut aller jusqu'au bout et pas arriver à dire ça. Parce qu'au fond, lorsque vous êtes au niveau des catégories, lorsque vous êtes au niveau des idées claires, vous êtes au niveau de l'universel, vous êtes au niveau de quelque chose que vous possédez qui provient de vous. C'est la clarté. Tandis que dès que je reviens au jugement, et c'est pour ça que Descartes dit que le jugement, c'est volontaire. C'est, on comprend très bien tout ça. Tout ça devient... On comprend très bien, c'est volontaire, parce que c'est pas commode de regarder l'autre. C'est pas commode d'accepter le singulier dans son inévitabilité. D'accepter que le singulier est quelque chose qui m'échappe. C'est pas commode d'accepter qu'il y a quelque chose d'autre qui me transcende. Il faut commencer un petit peu à situer ce point de vue-là. Alors, j'essaie de comprendre, à partir de là, comment facilement, parce que l'aspect catégorial, l'aspect quiditatif, c'est ce que je possède. Ça, au fond, on aime tellement les catégories. Tellement commode. Très commode pour passer des examens. Tellement commode. Rester dans l'aspect catégorial, de rester dans l'universel, de rester dans quelque chose qui est mon avoir. Je ne possède pas le sujet singulier individuel. il m'échappe. Alors, vous comprenez, est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'expliquer le jugement simplement par l'addition? Je reviens. En disant que le jugement, c'est tout simplement une catégorie plus une autre catégorie. Donc, le jugement, c'est la composition au niveau des catégories. Si le jugement est au niveau des... Vous voyez, j'expliquerai le jugement à ce niveau-là. C'est des catégories plus des catégories. Donc, je suis dans la composition où, au contraire, une catégorie s'oppose à telle autre catégorie. Et donc, elle arrive. D'autres catégories s'appellent. Je suis donc en face d'une relation qui unit ces catégories et qui fait que les catégories s'accrochent ou s'opposent. Suivant certains critères qu'on pourra préciser que les catégories. Alors le jugement à ce moment-là n'est plus du tout regarder ce qui est. Le jugement consiste simplement à additionner dans le réel ce que je saisis du réel. Ce que je saisis du réel. Et je me poserai la question, est-ce que ce jugement que j'ai réalisé, cette catégorie plus cette autre catégorie, cette composition, ils en parlent dedans de la composition. Aristote, de temps en temps, définit la seconde opération, la composition et la division. Alors, je suis en face donc de cette composition. Alors, cette composition que je réalise, je vais poser la question, est-ce que cette composition rejoint la réalité? C'est le départ, au fond. Et c'est le problème que je peux mettre à la suite de Descartes, avant Descartes, le problème de Hobbes. Je mets une addition de catégories et je me pose la question, est-ce que cette composition correspond à la réalité? Alors vous voyez la difficulté. Est-ce que la réalité avec moi je saisis? Puisque mon jugement, c'est des catégories. Alors je dirais, la réalité, je la saisis. L'existence de nous-mêmes, je la saisis. Mais je peux simplement expérimenter et voir s'il y a répugnance entre nous. Comme une espèce de méthode d'expérimentation. Je fais des compositions qui voient si la réalité rejette cette composition, si la réalité ne la rejette pas. Si la réalité est conforme à cette composition. Et je ne connais rien. Je ne connais que quelqu'un. Vous voyez, cette chose très très importante. Ça me semble capital de bien saisir ces deux conceptions du jugement. Ça, il faut arriver à saisir ça. Il y a deux conceptions qui ont existé, là, qui existent, tout simplement, qui existent. Il y a le point de vue du jugement, addition des catégories, et le jugement qui me met en contact avec le réel, la réalité existante, et qui me fait saisir dans la réalité existante son existence. Son existence, cette réalité et le sujet existant, impliquant la catégorie, mais dépassant la catégorie. Et donc, c'est l'intelligence qui, dans son activité de jugement, rejoint ce qui est. C'était l'acte élémentaire. Si l'appréhension est un acte élémentaire, je suis obligé de passer par là. Votre question est intéressante parce que je pourrais dire troisième position. Donc nous avons là deux positions. Première position. Première position, c'est cette position-là que je dirais la position du réalisme. Du réalisme dans ce qu'il a de plus fort, le jugement d'existence. Je crois profondément, mais j'interprète, hein, parce qu'au fond, la position d'Aristote et la position de saint Thomas ne se posent pas du tout les mêmes problèmes que nous. Mais je dirais que c'est la position d'Aristote et celle de saint Thomas en disant que le jugement d'existence implique un contact avec le réel. Dans saint Thomas, le lieu où on voit le mieux, parce qu'il n'y a pas tellement de lieux dans saint Thomas aussi, pas tellement. Et même, il y a des phrases dans saint Thomas qui, quelquefois, peuvent s'interpréter tout à fait dans un autre sens. Dans un Damas, c'est son commentaire sur le périr Ménéas ou cette Bible. Et c'est là où on voit que pour lui, le jugement implique le jugement d'existence. On avait fait une petite communication du forum, un congrès d'homiste, où j'ai vu tous les bons professeurs de l'angélique rugir. Et j'ai dit, écoutez, regardez le tout simplement. Parce qu'ils étaient dans cette interprétation de bon scolastique. La vieille scolastique, c'est ça, je vous affirme, c'est ça, c'est pas autre chose que ça. Donc ça passait par encadre. Alors c'est du Saint-Thomas filtré par encadre. Et le Saint-Thomas filtré par encadre, là, c'est évidemment quelque chose de tout à fait particulier. Donc, alors, troisième position, parce qu'elle existe aussi, ça c'est bien le dit, je vais dire, le jugement d'existence, le jugement n'implique pas l'appréhension, et j'aurai comme une vision directe ou descriptive, une vision descriptive de ce qui est, ou plus exactement, de la réalité, disons de la réalité, de la chose, c'est la chose, la réalité existante, les réalités complexes. Et alors je l'ai décrit comme un type de connaissance artistique. Je flaire le réel, je le décris, mais pas de connaissance méditative. C'est uniquement l'intelligence qui tout de suite. Ah, c'est autre chose. Hein. Oui, la foi de fait est un jugement d'existence qui n'implique pas une nouvelle appréhension. C'est très vrai que, d'une certaine manière, c'est une laïcisation du jugement d'adhésion de foi. C'est ceux qui disent, c'est très curieux, parce que ça revient là-dessus. Je lisais l'autre jour, hein, parmi ces jeunes philosophes d'aujourd'hui, vous savez, qui donnent des coups de pied aux voisins violents, dedans, et qui savent les donner. Une ruade là, profonde, ce n'est pas un arbre, c'est des ruades. Eh bien, je voyais que ces philosophes reviennent à la croyance. Très très bien. Pour éviter justement ce motif. C'est ça qu'ils connaissent. Parce que ici, ça engendre ce qu'on appelle le rationalisme. Le rationalisme est à ce niveau-là. Vous voyez ça, c'est le rationalisme. Le rationalisme cartésien qui a fait des petits. Et alors, quand ça a fait des petits, ça s'est multiplié, c'est devenu de plus en plus rationaliste. Alors, vous êtes là devant le rationalisme. Un rationalisme qui fait que, de fait, je me confronte au réel et je me dirai réaliste. Quand est réaliste? Je connais certains professeurs qui n'hésitent pas à dire Kant n'est pas idéaliste, il est réaliste. Alors je dirais Kant est matériellement réaliste, mais il est formellement idéaliste. Parce que la seule chose qu'on connaît, vous comprenez, c'est les catégories, et donc c'est formellement idéaliste. C'est l'intelligence qui connaît ça, et qui devient mesure du réel. Mais le réel mesure parce qu'il échappe. Et donc matériellement, il est réaliste. Troisième position, qui serait comme une laïcisation du jugement de foi, qui serait comme une croyance. Vous pouvez mettre cette croyance, un jugement pistis. Aristote de temps en temps parle de la pistis comme quelque chose qui nous permet d'adhérer au réel. C'est une adhésion, c'est une foi, une croyance. Alors cette croyance n'implique pas l'aspect quantitatif. Et donc j'essaie uniquement de décrire le réel. Alors c'est pour échapper à ça. Et il y a de fait une réaction violente contre le rationalisme. De cette manière-là, troisième position, la croyance, qui n'a pas d'aspect quantitatif. C'est quelque chose d'antérieur à la conceptualisation. C'est du pré-conceptuel. Penser naître, du pré-conceptuel, surtout pas de conceptuel, donc il n'y a pas de quantitatif. C'est quelque chose de premier. C'est quelque chose qui serait analogue à une espèce d'inspiration poétique ou à la croyance. J'espère que vous voyez ce que je veux dire quand je dis la laïcisation de la foi. La foi implique un jugement d'existence, mais la foi ne me donne aucun nouveau concept. Pas parce que je suis croyant que je suis plus intelligent et que j'ai de nouvelles idées. J'ai une nouvelle adhésion au réel. Un réel qui m'échappe. Un réel qui me transcende au mystère. Et donc, il y a un acte de jugement sans appréhension. Ça peut se faire grâce à la lumière divine. C'est là où la foi n'est rien d'abstrait. La foi, c'est un réalisme divin, et donc c'est quelque chose d'extrêmement concret. Si vous réintroduisez l'abstrait dans la foi, c'est votre attitude réflexive pour voir les concepts qui sont impliqués dans votre jugement. Mais ce n'est pas la foi. C'est votre réflexion sur la foi. La foi en elle-même implique une adhésion qui n'implique pas d'appréhension. Pas de nouvelle d'appréhension. Et donc si je laïcise la foi, j'ai la croyance. Et j'ai une croyance qui est analogue à la foi, analogue, c'est-à-dire totalement différente, mais analogue à la foi, qui me fait un jugement d'existence, j'adhère à ce qui est, j'adhère, j'y crois. Je crois ce qui est, comme une espèce d'inspiration poétique, sans appréhension. Il y a la mise entre parenthèses de l'appréhension. Alors, vous voyez, c'est ça qui est très curieux. Parce que je vous dis, je n'ai pas la référence ici, mais c'est intéressant de voir dans ces nouveaux philosophes, justement, cette attitude de dépasser le rationalisme, sont en opposition violente contre le rationalisme, pour redécouvrir une croyance. Une croyance dans une transcendance totalement autre. C'est beau, il y a quelque chose de très très beau, parce que le carcan du rationalisme, je comprends pas bien. Là-dedans. Alors on désire trouver autre chose. On désire trouver donc quelque chose qui va me permettre, dans le jugement, de découvrir autre chose. Croyance. Vous voyez, c'est pas l'opposition, ce n'est pas le retour vraiment au réel. C'est en opposition vis-à-vis. On reste encore dans une attitude d'opposition. Et il y a quelque chose de commun entre les deux. Il y a quelque chose de commun entre les deux, c'est-à-dire que dans ce fait, catégorie plus catégorie, je fais abstraction. Je mets en abstraction, en état d'abstraction, le jugement d'existence. L'époque du jugement d'existence. Ici, je fais l'époque de l'appréhension. C'est juste autre chose. Ici, c'est dit, chez certains taux, c'est pas dit du tout. Au moins, la phénoménologie a cette lucidité de dire qu'il faut mettre l'existence justement entre parenthèses. Ici, on met entre parenthèses tout l'aspect universel et rationnel. Donc, l'appréhension. Je fais l'époque de l'appréhension. De toute idée. Bon. Coller au réel. Uniquement coller au réel. Vous voyez, je crois que vous avez là trois grandes positions très intéressantes et très actuelles. Au fond, c'est tout le problème actuel, c'est ça. Du point de vue critique, tout le problème actuel, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites du jugement et du jugement d'existence? Il y a trois manières d'expliquer le jugement d'existence. Vous avez trois manières d'expliquer le jugement d'existence. La manière ici, que je dirais celle d'Aristote de Saint-Thomas, au moins dans la Bible, en explicitant. La manière rationnelle, celle de Descartes et de tout le succès de Descartes, qui va très loin, parce que ça va jusqu'à maintenant. Et puis, cette réaction violente, toute nouvelle, vous voyez, qui se sert de Heidegger, qui sent un peu comme Heidegger, il y a un préconceptuel. Ce préconceptuel me permet de saisir l'être, de penser l'être, d'être en contact, en bonne naturalité, avec le singulier qui existe. Et au fond, c'est ce singulier qui existe qui m'intéresse. Là, c'est l'idée. Là, c'est une construction intentionnelle. Tandis que là, je veux retrouver ce réel. Je veux être en contact direct. Et alors ça, c'est, je crois, c'est une espèce d'instinct poétique pour sauver ce qu'il y a de plus profond dans l'intelligence. Parce que là, on a rationalisé l'intelligence. Donc, on l'a tout fait. On veut sauver. On veut sauver ce qu'il y a de plus profond dans l'intelligence. Alors, ça devient la croyance. Ça devient le jugement préconceptuel. Vous voyez, tout penser l'être. C'est quelque chose qui est essayer de trouver une activité intellectuelle qui met entre parenthèses la position. Vous voyez, donc, les trois positions. J'espère que vous voyez ça. Ça, il faut y réfléchir, parce que c'est important. Ça nous aide à mieux comprendre la pensée actuelle, parce que de fait, c'est ça. La pensée actuelle, constamment, elle est à ce niveau-là, mais si je suis tout à fait à l'avant-garde, je suis à ce niveau-là. Celui-ci est déjà dépassé. Donc c'est celui-ci qui est important. Regardez celui-là. Celui-là est très intéressant parce que c'est un retour au réel, un désir de retrouver au réel. Et d'une certaine manière, il est plus proche de celui-là. Là, je ne voudrais jamais. Ça, je suis dans un système rationnel qui est clos. Il est tellement clos qu'il n'y a plus d'oxygène. Et ça, au bout d'un certain temps. Alors, on étouffe, et parce qu'on étouffe, on veut retrouver autre chose. Et on sort. On est resté dans le sein maternel trop longtemps. Enfin, trop longtemps. Alors, on étouffe, ça éclate. Alors, on va en sortir. Et alors, on en sort de cette manière, et on rejette tout ce point de vue quiditatif, tout ce point de vue de la connaissance quiditative, on en a une horreur, et on veut retrouver le réel, le palper, le saisir, l'embrasser, être dans le réel singulier. Donc, on est en opposition violente vis-à-vis de l'appréhension. Alors, je reviens, n'est-ce pas ? Cette petite excuse, c'est bon de saisir ces choses-là. Je reviens et je vois comment le point de vue logique qui se situe au niveau donc de l'attribution va faire que l'universel va être attribué à un sujet. Et donc il y aura un être de raison nouveau dans la seconde opération d'intelligence que j'appelle la. En latin, la prédication, que je traduis en français, parce que je ne peux pas traduire la prédication, je ferai de la prédication un être de raison, n'est-ce pas ? Je dis que c'est l'attribution. J'attribue un universel à un sujet. Et plus profondément, j'attribue le verbe au nom. Et c'est là où je vois qu'il y a quelque chose de tout à fait nouveau. Il y a un problème nouveau qui va se situer au niveau de la seconde opération, c'est de voir si le sujet est capable de recevoir le verbe. Oui, je rejoins le problème de tout à l'heure. Homme, l'homme est un chien. Est-ce que le sujet homme est capable de recevoir cette attribution chien ? Alors, c'est ce qu'on appelle le problème de la supposition. Et le problème de la supposition, je crois que c'est le grand problème de la logique de la seconde opération. Supponit. Est-ce que le sujet est capable de recevoir telle attribution ? Vous voyez, ce n'est plus le problème de la signification, c'est le problème de la supposition. Alors, ici, là encore, vous voyez, faisons bien, comprenons bien, il y a un problème de la supposition impliquant la signification et un problème de la supposition qui va essayer de se comprendre d'une façon purement fonctionnelle. Toujours la même chose, voyez. Parce que toute logique implique une fonction, la logique traditionnelle implique une fonction et une signification, c'est-à-dire un enracinement dans un problème critique et philosophique, ou au contraire une formalisation de l'aspect purement fonctionnel. C'est pour ça, dans la logique moderne, le problème de la supposition demeure, mais il est totalement différent que dans la logique ancienne. Alors c'est intéressant de voir la naissance des deux, et pourquoi il y a les deux. Et comment, de fait, le problème de la supposition, en effet, pose ce problème important. Le sujet va-t-il, le sujet qui apparaît dans le point de vue de l'énonciation, c'est-à-dire dans le verbe de la seconde opération, le sujet va-t-il être capable de recevoir telle attribution ? Soupe. Très difficile à traduire. Bon. Je crois que normalement, il ne reste plus qu'un seul cours. Hein. Après, c'est la logique formelle. Hein, je crois. Et après, c'est l'examen. Alors, on va traiter de l'examen pour voir un peu comment on peut.